Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1, 2, sunshake, sunshake.
Sunshake.
Méthode paranoïa critique, 2 points.
Paranoïaque, c'est le maximum du délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement.
Vincent Malone.
Pierre-Étienne Michelin.
Le bonhomme Michelin.
Pierre-Étienne Michelin, bonjour.
Bien, bonjour Vincent.
Quel est aujourd'hui le sujet qui te préoccupe le plus ?
La paranoïa. On peut raconter comment ça s'est passé, hein. Vincent Malone, donc on se connaît, tu m'appelles il y a 3 semaines pour me proposer une émission de radio, un podcast sur la paranoïa. Alors moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de te dire, ok super, mais moi j'y connais rien du tout en paranoïa, j'ai tendance à faire hyper confiance aux gens que je rencontre, et je pars du principe que toute personne que je rencontre est extraordinaire, magnifique, sympa et sans danger. Donc je t'ai répondu, t'es sûr, parce que moi j'ai encore en paranoïa, j'y connais vraiment rien, quoi, tu vois. Et tu m'as répondu cette phrase qui m'a fait qui m'a rendu un peu paranoïaque, c'est « T'inquiète, viens, au pire, on passe un bon moment ensemble.
» Voilà la bonne construction de podcast, quand même.
Ah, exactement. Ouais. Ah, j'ai dit, écoute, alors qu'est-ce que veut dire cette phrase ? J'ai trouvé cette phrase hyper anxiogène, finalement. Et donc, je me suis dit, je vais y aller. Et j'avais pas du tout réfléchi à ce que pouvait être la paranoïa. Et ça m'a réveillé cette nuit à 3h du matin.
Je peux savoir pourquoi t'es réveillé à 3h du matin ?
Parce que je dors très peu, en fait. Je dors très peu et je me réveille systématiquement 4h après mon réveil.
Et voilà, et j'ai eu cette réflexion où je me suis dit, mais finalement, en fait, l'humanité repose sur la paranoïa. La paranoïa est un des fondements même de notre civilisation, finalement.
T'inquiète. Au pire, on passera un bon moment ensemble. Cette phrase-là, justement, t'inquiète.
C'est
cette absence de contrôle dans le t'inquiète, au pire, on passera un moment ensemble qui te fait flipper, on est d'accord.
Mais il n'y a rien de plus inquiétant qu'un mec qui te dit t'inquiète. ça déjà, je commence toujours par me méfier des gens qui disent t'inquiète. On a tous, toutes les femmes ont un mari, ont eu un amant on connaît tous quelqu'un qui dit facilement t'inquiète, t'inquiète.
On est au centre de l'intérêt de ta présence ici dans ce podcast qui est que justement cette phrase t'inquiète.
Ouais.
Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels, comme t'aimes pas la phrase t'inquiète, toi tu regardes ce qui se passe.
Ouais.
Pour être sûr.
Ouais. C'est comme quand t'as peur en avion. Moi j'ai été phobiaque de l'avion pendant des années. C'est une peur complètement injustifiée, la peur de l'avion. C'est une peur mais que tu ne peux pas contrôler. Quand t'as peur en avion, t'as peur en avion. Même si t'as toujours un connard qui va te dire « ça tombe une fois tous les 200 millions, c'est plus sûr que l'ascenseur ». Tu vois, enfin, c'est extraordinaire. Et à force qu'on me dise « t'inquiète », j'ai dit « ok ». Alors, bon, il n'empêche que t'inquiète, il y en a quand même une infime, toute petite infime partie qui tombe.
Avec des gens dedans.
Bon. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, comme t'es obligé de prendre l'avion absolument toute ta vie, tu vas tout savoir. Tu vas apprendre à piloter et tu vas savoir qui fait quoi, comment ça marche un zingue, et comment c'est construit, et la poussée, les moteurs, les protocoles, les formations des pilotes, qui fait quoi, qui a autorité sur qui et comment ça fonctionne. Eh ben, c'est devenu complètement passionnant. Et finalement, alors je dis pas qu'aujourd'hui je suis capable de poser un 777 tout seul, sans assistance, mais quand même, maintenant, il n'empêche que maintenant que je connais absolument toutes les procédures et qui fait quoi et comment ils le font, je peux dormir en avion, je n'ai absolument plus peur de l'avion. Donc là, voilà, un exemple de la peur engendre la sécurité.
C'est-à-dire que tu as tout appris.
Oui, j'ai tout appris. Parce que la paranoïa réside sur deux socles, c'est l'ignorance et la connaissance du pire.
D'accord.
C'est-à-dire l'ignorance technique et la connaissance du pire. Par exemple, la paranoïa de George Bush avec les armes de destruction massive de Saddam Hussein. J'aime bien dire comme ça avec...
Oui, c'est bien, oui.
Les armes de destruction massive.
On parle pas du tout comme ça, George Bush.
Non,
d'accord.
Mais c'est, tu vois, on dirait presque Goldorak, une citation de...
D'accord, ok.
Armes de destruction massive.
Tu vois, c'est...
Oui, je vois, oui.
Et...
Je suis un peu inquiet, mais je vois.
Ouais, ça fait flipper, t'as vu.
Ah oui, là, ça fait flipper. Mais en même temps, tu fais une tête flippante en levant le poing et en faisant...
Les armes de destruction massive.
N'importe qui aurait la trouille, normalement.
C'est sûr, mais en même temps... Ils nous ont fait flipper à mort, donc on était tous d'accord pour aller taper sur la gueule de Saddam Hussein, et puis s'en est suivi tout le merdier dans lequel on est encore aujourd'hui. Pourquoi ? Mais parce qu'on sait ce que c'est qu'une arme de destruction massive. On l'a vu avec Hiroshima et Nagasaki. On nous a montré ce que c'était. Sinon, on se dirait quoi ? Ah, les trucs qui font les ronds dans l'eau là, le gros champignon dans le ciel là, ça pique ça, ça peut faire mal. On n'aurait pas idée que ça peut nous tuer, que ça peut nous tuer en masse. Et le pire, c'est que depuis Hiroshima et Nagasaki, on nous ravache à longueur de journée que les armes de destruction massive que l'on fabrique aujourd'hui sont 400 fois plus puissantes qu'Hiroshima et Nagasaki. Alors comment veux-tu qu'on ne soit pas parano avec ça? Avec des types comme Bachar Assad, Saddam Hussein et tous les dictateurs...
Je vois pas très bien comment tu passes de l'avion à ça, mais j'essaye de te suivre. Hein.
C'est le même principe de la connaissance du pire. C'est quand j'avais peur de l'avion, j'ai décidé de lire tous les rapports de crash que je pouvais trouver, télécharger sur le BEA, sur le site du BEA. Tu peux télécharger les rapports de crash du Rio Paris, de tous les crashs qui sont... Les grands crashs célèbres qui sont arrivés depuis 30 ans.
C'est comment un rapport de crash ?
Un rapport de crash, c'est un peu technique, mais t'as des mecs qui font des bouquins. Par exemple, Jean-Pierre Othelli, qui fait une série sur des erreurs de pilotage et qui raconte, qui fait une synthèse un peu moins technique à des gens novices qui sont pas forcément pilotes ou qui travaillent pas forcément dans les avions. Tout ce qui s'est passé, toute la série de facteurs qui a conduit au crash. Donc en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est que tu connais le résultat, tu sais ce qui s'est passé à la fin, tu sais qu'il y a 280 morts, tu sais que voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est la succession factorielle qui a conduit à la catastrophe ? Et donc quand on a peur de l'avion, on a une paranoïa qui n'est pas justifiée parce qu'on ne connaît pas tous les facteurs qui peuvent nous mener à notre destruction.
Une fois que tu les connais, t'as autant la trouille.
Non, parce que tu sais que ce qui est déjà arrivé, normalement, ne devrait pas se reproduire en aviation.
Et pourquoi ?
Parce que chaque crash est un cas d'école extraordinaire. On analyse absolument le moindre accident, le facteur humain, le facteur technique. Et donc c'est des gens qui sont quand même assez compétents, qui sont c'est pour ça que je trouve l'aéronautique je trouve que l'exemple est bien dans la paranoïa, parce que l'aéronautique c'est la quintessence de la technologie humaine. C'est toute notre technologie, que ce soit dans nos portables, dans les télés, dans la communication, dans la technique, toutes nos technologies sont le fruit de la recherche aéronautique, que ce soit civile ou militaire. Et donc, tu te dis, à un moment donné, avec un tel degré de recherche technologique, il y en a encore qui tombent.
Oui.
Donc, c'est un domaine dans lequel on évoluera toujours.
C'est flippant, je trouve.
Non, parce que c'est de moins en moins. Le transport aérien est de plus en plus sûr. Il y a eu zéro mort en 2017, hein, dont sur un avion de ligne, dans le monde, zéro mort en 2017.
Au départ, tu as peur en avion,
ouais.
Comme beaucoup de gens, parce que tu as peur qu'il tombe.
Oui, parce que j'ai vécu une expérience un peu traumatisante à un décollage. Pas grave du tout, hein. C'était une procédure normale. Juste, il a interrompu. C'était sur un Paris-Nice. Le pilote a interrompu la procédure de décollage juste avant V1, qu'il avait la vitesse au-delà de laquelle tu es obligé de décoller. Donc juste avant V1, ça va quand même vite. L'avion est déjà lancé à une certaine vitesse. Donc quand le mec décide d'interrompre le décollage, je peux te dire que ça fait beaucoup de bruit. T'as la tête dans le fauteuil de devant et t'as les casiers qui s'ouvrent, les sacs qui tombent et tout. C'est une scène de catastrophe. Et moi j'étais papa depuis 15 jours et je commençais à m'endormir parce que à l'époque j'avais pas peur de l'avion et je dormais très bien en avion. Et j'étais papa depuis 15 jours. Et je me suis dit, oh non, merde, pas maintenant. Je viens d'avoir un bébé, c'est con, pas connaître son père. Enfin, tu vois, le truc qui... Le mec, il dit...
Vise de procédure avec la tour, on fait demi-tour, on décolle, tout va bien. Aucun problème. Dormez tranquille.
Ok, cool. Et finalement, en fait, ça m'a déclenché une espèce de phobie exponentielle. Où plus je prenais l'avion, et plus je psychotais, et plus ça me rendait parano. Et donc c'est là où j'ai décidé de comprendre pourquoi ça pouvait être dangereux, et pourquoi ça ne l'était en réalité très peu.
Les avions tombent.
De moins en moins, encore une fois, de moins en moins.
Oui, mais ils tombent. Il en suffit d'un.
Il suffit de celui où t'es dedans, quoi. C'est sûr que quand j'étais, oui, mais c'est irréaliste. Enfin, je veux dire, c'est tellement décevant d'avoir peur de quelque chose et qu'il se passe rien. C'est tellement, tu peux pas savoir ce que c'est que de flipper la veille, de pas dormir, de monter dans un avion avec la boule au ventre, l'envie d'aller aux toilettes et d'être très très mal et d'arriver et au moment où t'entends toutes les ceintures qui se détachent, les réacteurs qui, les moteurs qui se coupent, tu dis merde, tout ça pour rien. Tu vois, t'as presque envie à un moment donné que tu vas en plein vol et tu vas je l'avais dit, c'est de la merde votre truc. Non mais c'est vrai, à un moment donné t'as presque envie qu'il arrive un truc pour dire j'avais raison, c'est de la merde, vous n'êtes pas prêts, hein. Non.
Tu as lu
tous les rapports de crash.
Tu as lu combien de rapports de crash?
Je sais pas, une cinquantaine, soixantaine.
Et là, tu as découvert des choses
extraordinaires.
Comme
les procédures, les façons de se parler, la hiérarchie, les préparations des vols, le poids des avions, la poussée des moteurs, la gestion du contrôle aérien, la gestion des procédures, la manière dont ils se parlent entre eux, la manière dont ils se parlent entre pilotes et contrôleurs, la manière dont ils gèrent une surcharge de travail, quand par exemple ils sont dans une tempête ou ils ont des alertes météo, la manière dont au sol il y a aussi d'autres organismes, il n'y a pas que les contrôleurs, il y a aussi les traitements par exemple Boeing et Airbus ont des centres où ils reçoivent les fameuses notes ACAR, tu sais, où
non, je sais pas,
c'est
non.
Des petites notes de panne, d'incident sur des vols.
Mm-hmm.
Alors ils n'interviennent que si les pilotes demandent une assistance à Boeing, au dispatch, je crois ça s'appelle. Tout ça fait que toute cette harmonie de gens qui travaillent ensemble, qui réfléchissent à progresser. Depuis, j'ai une très bonne copine à moi qui est pilote Air France et qui m'a emmené, du coup, comme je suis absolument passionné et que je connais tout, elle m'a emmené en rotation à Singapour. On est parti ensemble en 777, en Boeing 777, et une journée dans un simulateur où elle était examinée avec un instructeur qui lui déclenche des pannes. Qui lui déclenche des pannes, des pannes moteurs, une porte de soute qui décompresse.
Comme dans Apollo 13.
Ouais, comme dans, voilà. Et donc, et c'est absolument passionnant de voir à quel point ces gens poussent le détail pour arriver à une sécurité optimale, quoi. C'est là où on reviendra d'ailleurs sur, j'espère, sur notre fameux Plissman, sur sa théorie des qui n'est pas le seul,
Chemical 13.
Chemical 13.
Le fait que les avions, en fait, la traînée derrière, ouais, qui est longue, en fait, c'est des produits chimiques qui nous, voilà, mettent barium ou je sais pas quoi pour...
Voilà. Voilà. Pour nous assouvir, pour...
Oui, enfin, pour cacher la couche d'ozone, des trucs un peu bizarres. Ouais,
ouais. Ouais. Il y en a qui disent que c'est pour nous empoisonner, que ça, ouais, c'est pour...
Toi, t'as une idée là-dessus, toi?
Alors oui, j'ai une idée là-dessus qui, pour moi, là pour le coup, je crois qu'on est vraiment dans la quintessence de la paranoïa. Ça demanderait tellement de travail à tellement de gens de faire ça qu'il serait impossible de garder le secret. C'est comme le 11 septembre. Pour moi, le 11 septembre...
C'est comme le 11 septembre.
Alors, que ça a été commandité, que ça a été machiné, que c'est... Bon, ça, j'en sais rien.
Bon, ça, j'en sais rien.
Je préfère pas le savoir, évidemment.
C'est comme le 11 septembre.
Mais par contre, qu'on remette en question le fait qu'il y a bien des avions qui se soient... que des types aient pris possession d'avions et qui s'est foncé dans les tours... Alors, on voit un milliard de trucs sur Internet, comme quoi c'est des montages vidéo, il y a des preuves et tout ça, qu'il y avait des bombes dans les tours, qu'il n'y a jamais eu d'avion sur le Pentagone, que...
C'est comme le 11 septembre.
Pour Plissman, c'est très clair, ça, c'est nos vaisseaux spatiaux qui ont tiré sur la tour et l'ont fait fondre.
Ouais, pourquoi pas, mais je me dis toujours, il faut avoir un peu l'humilité de se dire que ce qu'ont fait les mecs du 11 septembre, c'était facile à faire, et que de monter un tel truc, que ce soit faux, aurait été finalement beaucoup plus difficile, et il y a beaucoup plus de personnes, ça aurait été beaucoup plus, surtout, difficile à masquer et cacher pendant toutes ces années, et que finalement... Ces 22 types là qui ont réussi à prendre des avions très facilement, c'est hyper facile, c'est à la portée de tout le monde, sur des logiciels de pilotage, de s'entraîner à foutre un Boeing dans une tour, dans une montagne, où c'est hyper facile. Donc il faut avoir à un moment donné l'humilité de se dire, bon, on a merdé, on n'a pas pu venir voir le truc, on n'avait pas imaginé que ça puisse arriver. Bon, ben, on va réfléchir à comment trouver des solutions pour que ça n'arrive plus. Mais d'inventer toute l'histoire, de faire des montages vidéo, je trouve la difficulté plus grande, finalement, que ce qu'ont fait réellement les terroristes du 11 septembre.
Sur le 11 septembre, tu dis, il ne peut pas y avoir de complot parce que mon analyse fait que ça serait plus compliqué que ça soit un complot, que ça soit la vérité.
Oui, oui.
Après, pour les avions, pareil, quoi.
Après, attention, je suis pas complètement naïf non plus. Qui est du complot à des échelles internationales et tout ça? Évidemment, pour moi, le monde ne pourrait pas fonctionner sans complot gigantissime du pouvoir et du capitalisme en général.
Ah bon?
Oh bah oui. Bah oui. Et ça, à la limite, il vaut mieux pas qu'on sache. Il vaut mieux pas qu'on sache. Moi, ça m'intéresse pas de savoir que tel président a fait buter tel mec parce que il préparait un attentat ou quoi. Ça m'intéresse pas de le savoir. Je ne veux pas le savoir. On ne devrait pas le savoir.
Pourquoi, monsieur?
Parce qu'en fait, c'est comme je passe peut-être du côté à l'âne, mais c'est comme après chaque attentat de donner le nom du terroriste et de sa photo. En fait, c'est juste pour... En fait, bon, alors moi ça me révolte parce que ce mec ne mérite même pas un nom sur une tombe. C'est trop d'honneur déjà. C'est déjà trop d'honneur et il faut que les mecs qui prévoient de faire des attentats pour quelconque idéologie que ce soit ou religion ou quoi se disent bien qu'ils vont mourir dans l'anonymat le plus complet. Ça, ce serait, je trouve, beaucoup plus efficace déjà, de commencer par là, parce que finalement, ça nous sert à quoi d'avoir le nom et la photo du terroriste, des mecs du Bataclan, des... ça nous sert juste à se dire, je le connaissais ou pas? Ah merde, ah bah je le connaissais pas, donc ah bah ça me touche pas, alors c'est bon, tu vois, ça sert juste à nous rassurer, mais pas du tout. Pas du tout. Par contre, ça rend complètement du coup parano ceux qui connaissaient les mecs et qui se disent « Putain, merde, je le connaissais pas, j'ai rien vu venir. »
Ça rend peut-être parano aussi ceux qui ont peur des Arabes, par exemple aussi, quoi, tu vois.
Ah bah évidemment, ça les maintient dans la paranoïa totale de leur propre racisme. Après, qu'on soit raciste, ça, je sais pas si tu connais un éminent neuroscientifique qui s'appelle Idriss Aberkan, qui dit dans son bouquin, c'est un mec qui est super, c'est un conférencier, il fait des bouquins super... sur le cerveau, sur la biologie, sur la nature, et qui combine un petit peu toutes ces spécialités. Et il explique que, naturellement, physiologiquement, le cerveau est raciste. Attends, mais tu rigoles, mais ça se tient, parce que...
Le cerveau, en une fraction de seconde, est capable d'analyser une personne ennemie ou amie. En une fraction de seconde.
Avec l'expression du visage, s'il est armé, tout ça. Et
une personne d'une autre couleur que sa propre couleur, quelle qu'elle soit, hein, noir, le jaune, n'importe quoi, blanc, analyse tout de suite comme dangereuse.
Le cerveau, dans la première seconde, pas de la même couleur, dangereuse.
Mais c'est pareil pour les noirs avec les blancs avec les... C'est pareil.
Avec les maghrébins, tout ça, c'est pareil. Le cerveau, physiologiquement, est déjà raciste. Après, c'est toute la connaissance intellectuelle, et c'est dès que tu as un rapport avec le mec, la manière dont il te parle et la manière dont il te regarde, c'est le cerveau ne l'est plus en quelques fractions de seconde. Et se rassure, dit « Ok, ami, coup de tampon, et on discute, et on a quelque chose à faire ensemble, ou pas. »
Tu veux dire qu'instinctivement, le cerveau distingue les gens qui ne présentent aucun danger, c'est ça?
Assez vite, ouais, très vite. Très vite.
Sauf qu'en général...
Attention, physique, hein, c'est
pas toi.
Je cite Albert Kahn.
Oui, on se fait en général zigouiller par des gens qui sont de la même couleur que nous. Donc c'est pas très malin de la part du cerveau, je trouve, non, quand même.
Bah, évidemment, c'est... oui, après, le cerveau peut se tromper.
Donc on est passé de l'avion au cerveau et raciste assez rapidement. On va quand même essayer de...
Ouais.
Tu vois, de circonscrire un peu les podcasts.
Je sais pas, mais il y a des sujets qui me passionnent.
Il y a beaucoup de sujets qui te passionnent.
Le cerveau, bien sûr, la connaissance de l'homme, l'histoire aussi, parce que on comprend mieux le présent quand on connaît l'histoire, c'est bien connu, hein. Et la mort aussi me passionne, comme tout le monde, je veux dire, on a tous envie de savoir quand même ce qu'on va foutre après.
Oui, mais là, on ne sait rien du tout, pour le coup.
Ah ben là, on ne sait rien du tout. Mais donc, c'est passionnant de se poser la question.
Pour les avions, toi, tu as tes rapports de crash, mais pour la mort...
Il y a des bouquins qui existent, comme La Source Noire. Je me rappelle que j'avais lu ce bouquin absolument passionnément, qui est un bouquin qui raconte plein d'exemples de gens qui ont eu des NDE. Near death experience, donc en anglais.
Near death
experience.
Ça veut dire près de la mort, l'expérience.
Oui, enfin de gens qui ont vu le tunnel, la lumière, qui ont.
Parce qu'il y a un tunnel.
C'est ce que des gens qui reviennent d'un infarctus ou d'un accident de bagnole ou d'un coma profond. On parle de tunnel, de lumière vive, d'extraordinaire, tout ça. Donc évidemment, c'est passionnant. On a envie de les écouter, c'est bien clair. Alors qu'est-ce que t'as vu? Putain, c'est cool ou pas?
Et alors, en résumé. Pour faire vite, rapidement.
C'est intéressant. Enfin, le bouquin est super intéressant. Donc, c'est intéressant de
visite des tunnels.
Ouais, de se rapprocher, en tout cas, de se rapprocher de cette fameuse réponse.
D'accord.
Même si on sait qu'on ne l'aura qu'au dernier moment.
Pierre-Étienne, merci.
Merci, avec plaisir.
Salut.
Salut.
C'était une émission du Poste Général.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.